Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le dernier jour de 1966, 31 décembre, France Culture souhaitait en musique une bonne fin d'année à ses auditeurs. L'humour en jazz, c'était la dernière émission « Connaître le jazz » de l'année où tous les collaborateurs venaient raconter leur petite histoire. Sur Ella Fitzgerald imitant Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, sur Django Reinhardt et le pianiste Fats Waller. Let's start the new year, White, comme le chantaient Frank Sinatra et Bing Crosby, crooners de jazz.
Connaître le jazz, une émission de Lucien Malson présentée ce soir avec toute l'équipe des animateurs des émissions de jazz de l'ORTF.
Le calendrier a voulu que nous allions en jazz jusqu'à minuit le jour de Noël et que ce soir nous nous retrouvions pour atteindre ensemble les dernières minutes de l'année 66. Le 24 décembre, c'est l'aspect heureux et tragique de ce jazz que Sim Coppens a mis en relief avec les Spiritual, et aujourd'hui c'est l'aspect heureux et comique que nous aimerions évoquer. Chaque semaine, un invité nouveau vient à nos côtés présenter un programme. Pour le thème que nous avons choisi ce soir, l'humour en jazz, et pour cette ultime émission de l'année, j'ai demandé à tous les collaborateurs, des animateurs de l'ORTF, à tous ceux qui sont sur nos antennes de France Culture, de France Musique et de France Inter pour présenter le jazz, de se retrouver ensemble devant notre micro avant de se rendre au réveillon. Ils vont venir tout à l'heure, avant minuit, raconter une courte histoire, une aventure, une anecdote de l'humour en jazz. Jean Bellemin, on peut le croire, sur cette antenne, c'est un sorbonnard, disait que le jazz nous provoque authentiquement et autrement que la musique du vieux monde, par son sens de la chair, son sens de l'absurde, son sens de l'humour. Trois des harmoniques, ajoutait-il, dont se trame la civilisation nouvelle, la civilisation contemporaine. Avant que ne se déroule dans le tempo précipité qui sied à notre rencontre joyeuse du 31 décembre, les illustrations de la joie dans le jazz, mettons-nous en situation de l'entendre avec cette disposition d'esprit indispensable, parente de celle des musiciens eux-mêmes, qui assument en souriant la quotidienneté, l'existence banale, et qui, par leur art de souveraine détente et de moquerie, nous aident à accepter les événements du monde, la fuite du temps, comme ils sont, comme ils viennent.
Say, you better bring me a double order of Riti Vutis with a little hot sauce on it. That'll just about fix it. Oh, here's it. Well, look at Charlie Yardboy to Rooney.
Yes, now how's it going, John?
Oh, everything is mellow, man. Look at this guy to get his horn with me.
Yeah,
blow
I've
some?
Got my horn with me, man. I want to blow some, too. Yeah. I'm having a little reed trouble.
Haven't got a reed?
Yeah.
Well, McVouty's got a reed. He can trim it down a little. That's great.
Yeah,
of course. Well, that's great. Solid, then. Well, let's get together and blow. We ain't flat. Take the next one. You got it. All right.
Yeah.
wine soda.
Wine soda?
Yeah, that was just about to get it. Well, look at here. There's Max Kevin Balso Rooney with his trumpet there.
Well,
what's in the... Oh, everything is solid.
I gotta go with that.
What, you gotta cut out?
Jubilee,
you gotta make another day. That's groovy. Well, you gotta make a gig. Take the next chord before you cut out. Take the next chord. That's killer. Avocado seed soup there while we nail the seed to the roof. That'll fix it. Say, look here, Papa. How about setting a riff on the next course and we'll take him on out there because he's got here. He got to go and make another gig there. Let's get, I got to get up early in the morning myself. So let's riff on the next
Ce que nous avons entendu, c'était Slim Jam, la réunion pour l'improvisation, pour la jam session, ou, comme le disent dans leur argot les musiciens français, la réunion pour faire un bœuf. Le jazz plaisante souvent par l'imitation, par ses à la manière d'eux qui supposent la connaissance d'un original et la transposition amusée et amusante. Qui ne connaît Armstrong, sa voix éraillée, son timbre voilé, son style pathétique pour exprimer la moindre chose? Ella Fitzgerald l'imite pour notre plaisir en une charge aimable et c'est tout de même Basin Street Blues.
Basin Street, oh Basin Street, is the street mama where the folks are. New Orleans, land of dreams. Baba, 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 said, I was the Baba who said it loud. Mama, oh, land of dreams. Baba, do zept you. You never know how nice a thing. So I can lose, babe.
Ella Fitzgerald s'est imitée d'autres amis que le vieux Satchmo, le contrebassiste Sam Stewart par exemple. C'est la fête toujours à laquelle le public initié des concerts de jazz participe bruyamment.
Sweet and lovely, lady be good, oh lady be good to me, cause I'm so awfully misunderstood. Oh lady, good to me. Say I'm all alone in this big city of New York. Won't somebody please have pity, 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 pity on me. Just a lonesome babe, babe in the woods. Old lady, old lady, old lady, be good to me.
Ima Sumac fut, on s'en souvient, une prêtresse faussement inca, une comédienne de la variété américaine qui promenait sa voix de l'extrême grave à l'extrême aigu. Dans Sonny Rooney, un air pittoresque de pacotille, Slim Gaillard la met cruellement en boîte. On rit au concert de jazz, même sans connaître les personnages convoqués à leur insu, on rit parce que les attitudes des musiciens, le texte des chansons nous y invitent. Et d'abord parce que le scat, les vocalistes jazzistes, ont gardé dans la tradition du heebie-jeebies de Louis Armstrong leur allure percutante et joviale. Voici The Preacher par l'extravagant Babs Gonzalez.
A new preacher going round,
bouncing along.
He's got his briefcase, he's Ivy League,
humming in a song.
He's got a sermon every day,
haunting everything.
He's the coolest cat in town, cause this guy preaches swing. I met him walking down Broadway,
coming from the gig.
He started cooking his crazy tunes,
nearly blew my wig.
We went from Dizzy to Mockingbird
and Lady Two.
And if you have to meet this guy, he'll preach his
jazz to you.
Shaba da ba da ba doo be doo da ba doo be doo da ba da ba he da la da da la e bam he da la da da la e bam la ba he da da doo da ha da da she doo be doo da ba da ba he bree bree da la 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 le da bam doo ba ha e ba e ba e bam he da la e.
da ba doo 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 ba da ba hoo doo diddy da 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 ba dee boo hit da da doo doo da ha doo doo la da 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 doo dee 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 bam la la da 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 doo dee doo la da 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 dee doo bam sha ba doo la doo la da 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 dee da 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 dee da da.
Sans recourir à ces effets drôlatiques, Fats Waller, le pianiste amuseur qui réconfortait tout un peuple à l'époque de la crise économique de 1929-32, savait chanter des romances dérisoires aux paroles bouffonnes telles « Your feet's too big », « Vos pieds sont trop grands » qui sonnent comme un reproche burlesque dans une déclaration d'amour de comédie.
Who's that walking around here? Mercy. Like baby patter, baby elephant patter, that's what I calls it. Say, up in Harlem, at a table for two, there were four of us, me, your big feet, and you. From your ankle up, I'll say you sure are sweet. From that down, there's just too much feet. Yes, your feet's too big. Don't want you cause your feet's too big. Can't use you cause your feet's too big. I really hate you cause your feet's too big. Yeah. Where'd you get them? Your girl, she likes you. She thinks you're nice. Got what it takes to be in paradise. She said she likes your face, she likes your rig. Man, oh man, them things are too big. Oh, your feet's too big. Don't want you cause your feet's too big. Mad at you cause your feet's too big. I hate you cause your feet's too big. Gunboats. Shift, shift, shift. All your pedal extremities are colossal. To me, you look just like a fossil. Got me walking, talking, and squawking, cause your feet too big, yeah.
Come on and walk that thing. Oh, I never heard of such walking. Mercy. Your pedal extremities really are obnoxious. One never knows, do one?
Le pianiste Jean Constantin, qui fut jazzman d'abord, puis amuseur dans la variété, a gardé de l'amitié pour Fats Waller. Il a donné une version française de Your Feet's Too Big, qui ne trahit pas trop la petite pièce cocasse dont elle s'inspire.
À me prendre pour James Bond, mais c'est mes pieds qu'elle trouve trop grands. Fits too big, j'ai les deux pieds beaucoup trop grands. Les pieds plats les plus mal foutus qu'on n'a jamais entendu.
Imitation, dérision en vocalise, plaisanterie patente des textes de chansons, il reste à trouver l'humour dans la musique elle-même. Dans le dialogue mutin de King Cole et de Les Paul, entre autres, pour l'un des concerts du Jazz at the Philharmonic de Norman Granz.
Thank you.
Tout au long de l'émission, un à un, sont arrivés nos amis, les animateurs de jazz des trois chaînes. Ils sont réunis autour de moi. Il y a Henri Hubert, il y a Pierre Lattès, Jean-Hubert Masson, Philippe Coquelin, André Clergeat. Je vois André Pensis derrière la vitre, là-bas derrière, toujours timide et discret. Et comme ils se sont proposés de nous raconter quelques anecdotes, quelques histoires sur le jazz, je vais demander à chacun d'entre eux de nous dire la sienne. Alors, peut-être Henri Hubert a-t-il une idée.
Une idée ou une histoire?
Non, une histoire.
C'est plutôt une petite fable, mais qui suppose la connaissance un peu de l'argot des musiciens. Je crois que vous avez employé le mot au début de cette émission, le mot par lequel les musiciens de jazz désignent le fait de participer à une jam session. Alors on pourrait dire, en s'inspirant du bon Lafontaine, je vous demande simplement de ne pas me demander la morale de la fable. Chacun tirera la morale comme il l'entendra.
Ah, je n'ai pas l'heure ce soir.
C'est un gros ruminant, bien gentil, qui rencontre une petite grenouille qui est en train de se gonfler et qui lui dit « Petite, on fait un bœuf ?»
Philippe Coquelin, vous avez organisé pas mal de concerts. Je sais que la douleur des organisateurs de concerts, c'est d'avoir affaire à un monde un peu farfelu, celui des musiciens de jazz, et je pense que vous avez peut-être une anecdote, vous, vécue.
Bien, ça s'est passé lors du dernier Paris Jazz Festival. Au quatrième concert, celui qui avait lieu le dimanche à minuit, il y avait en deuxième partie Sonny Rollins avec le quintet de Max Roach et le quintet d'Albert Heller, qui a provoqué pas mal de remous. Et juste avant que Sonny Rollins entre en scène, les frères Heller, puisqu'il y avait donc Albert Heller au saxo et Don Heller, son frère, à la trompette, ont quitté les coulisses avec armes et bagages, leurs manteaux et leurs instruments à la main, bien décidés à ne pas jouer. Alors, très ennuyés, la première chose à laquelle nous avons songé, c'est d'harponner Rollins qui allait entrer sur scène en lui disant « Rallongez votre passage sur scène de façon à ce que le public soit bien fatigué quand nous annoncerons que les frères Heller ne peuvent pas jouer. » Et Sonny Rollins a commencé donc à développer un solo assez interminable qui a beaucoup plu à certains fanatiques, qui en a endormi d'autres. Et pendant ce temps-là, on courait désespérément après les frères Heller. Rollins se jouait, n'arrêtait pas de jouer, c'est là l'explication de ce chorus interminable. Et à certains moments, le personnel de Pleyel, qui était très fatigué parce que la nuit était assez avancée, pensait que Rollins allait terminer parce qu'il y avait des fausses fins. Et à chaque fois, il s'apprêtait à laisser baisser le rideau et Rollins redémarrait et tout le personnel affolé de retirer le rideau, de rallumer les lumières. Enfin bon, c'était très épique. Et puis finalement, on a réussi à retrouver les frères Heller dans un café des environs et en essayant de les raisonner, on a pu les ramener sur la scène de Pleyel où ils sont passés à peu près, je crois, vers 3h du matin.
C'est ce qui explique d'ailleurs que nous avons assisté pour une deuxième fois à une prise en direct d'une nouvelle nuit à l'opéra des Marx Brothers et que l'explication nous est fournie ce soir par Philippe. Jean-Robert Masson, vous travaillez à la librairie de Chou, je pense que vous avez une histoire noire, et d'ailleurs les histoires noires sont des histoires qui conviennent très bien à une émission de jazz.
Oui, c'est une histoire très noire, en effet. La scène se passe dans un cabaret de New York, il y a là Dizzy Gillespie, quelques comparses et un pianiste qui s'appelle George Shearing, que vous connaissez tous, c'est un pianiste blond, il est britannique, il est tout rose, comme tout bon britannique qui se respecte, et il est aveugle aussi. Et à la fin de la jam, vers 4h du matin, Dizzy, un peu énervé par l'accompagnement de George Shearing qui ne lui convient pas particulièrement, veut avoir le dernier mot et, très ironique comme il l'est toujours, il s'approche du pianiste, il lui tape dans le dos, il lui dit « Mon cher George, il est temps que je vous apprenne quelque chose, saviez-vous que vous étiez noir ?»
André Clergeat, rassemblez vos souvenirs et parlez-nous un peu de la vie du jazz.
Eh bien, j'ai peut-être une anecdote qui n'est pas toute neuve, puisqu'elle remonte à 1938. Et elle met aux prises le quintet du Hot Club de France, et tout particulièrement Django Reinhardt. Voilà. C'est Charles Delaunay, de qui je tiens l'anecdote d'ailleurs, qui accompagnait le quintet pour un bal que les musiciens devaient donner en Suisse pour des étudiants de Zurich. Le quintet moins Django Reinhardt prend le train, moins Django Reinhardt, mais plus Charles Delaunay. Il y avait donc Stéphane Grappelli, Roger Chaput, Joseph Reinhardt et Louis Vola, le contrebassiste, et Charles Delaunay qui emportait la guitare, la précieuse guitare de Django. Django lui-même devant rejoindre ses camarades. Un peu plus tard, il était parti se promener sur la Côte d'Azur.
Comme les frères Heller.
Comme les frères Heller, oui. D'ailleurs, la fin est assez proche, un petit peu, de, vous allez voir, de l'anecdote que racontait Philippe Quéclin tout à l'heure. L'heure de se présenter au public arrive, et Django Reinhardt, lui, malheureusement, n'était pas là. Alors, il a fallu improviser, car, bien entendu, l'organisateur refusait de payer 4 musiciens, alors qu'il en voulait 5.
Un quintet composé de 4 musiciens.
C'est ça, oui. Et il n'y a eu qu'une solution, ça a été d'improviser Charles Delaunay, qui avait la guitare sous le bras toujours de Django Reinhardt, mais qui n'en connaissait pas le maniement. Il ne le connaît toujours pas non plus, d'ailleurs. Et on a mis Django Reinhardt, on a mis Charles Delaunay.
Et le pseudo Django.
Le pseudo Django derrière. On a mis Joseph Reinhardt, manouche, comme son frère, bien sûr, et pouvant avoir un air de ressemblance.
Un air de famille, au moins.
Au premier rang. Et le concert s'est déroulé, enfin, la soirée s'est déroulée, Django Reinhardt étant pas là, c'est Charles Delaunay qui a tapé sur la guitare et qui a été pris par des centaines et peut-être des milliers d'étudiants suisses pour Django Reinhardt et un membre du Hot Club de France. Mais mon cher Malson, peut-être pourriez-vous prendre la parole à votre tour.
Cette réplique n'était pas préparée en dépit du temps. Écoutez, je vais vous raconter l'histoire de John Smith, qui était un clarinettiste de la Nouvelle-Orléans, qui n'aimait pas lire les partitions, qui avait horreur de jouer en grand orchestre, qui s'est tout de même trouvé un jour sous la direction de Duke Ellington. Et alors que les heures passaient et que le clarinettiste commençait de s'impatienter, on l'a vu tout d'un coup plier ses bagages, dévisser sa clarinette et partir. Et Duke Ellington lui a dit « Mais où allez-vous, John ?» Il lui a dit « Écoutez, moi je m'en vais. » Il dit « Mais voyons, mais ce n'est pas fini. Le concert doit continuer. » Il dit « Oh, moi ça m'est égal, j'ai tout joué. » Pierre Lattès, vous êtes le plus jeune de nous tous et je pense que vous avez le droit de parler le dernier. Je crois d'ailleurs que votre blague est très très bonne, alors nous allons vous laisser faire.
L'histoire se passe à New York il y a 5 ou 6 ans, elle est vraie, je précise tout de suite. Elle est arrivée à Art Taylor, qui me l'a raconté lui-même. Il jouait dans l'orchestre de Thelonious Monk au Five Spot, qui était un des clubs, le premier Five Spot, un des clubs les plus célèbres de New York. Et il jouait dans cette formation depuis au moins 6 mois, peut-être un an. Il n'avait jamais eu l'occasion de prendre un solo. Alors un soir, il a été trouvé Monk et lui a expliqué la chose et lui a demandé s'il pouvait prendre un solo ce soir. Monk a dit d'accord. Premier set se passe, la première heure de jeu, la deuxième, à la troisième enfin, Monk se lève, s'approche du micro et dit « Maintenant, notre batteur Art Taylor va prendre un chorus dans le morceau suivant. » Et alors Monk a donné le tempo. Blah, blah, ooh, yeah, blah, blah, ooh, yeah, blah, blah, ooh, yeah, cool.
En peut-être jeune par le corps et puis par l'esprit aussi, André Francis, j'avais oublié que vous l'étiez encore plus que la thèse et je pense que vous avez une bonne histoire vous aussi.
Oh, c'est une histoire qui se passe à New York et c'est un monsieur qui arrive de province et qui veut se rendre à Carnegie Hall, qui est non seulement le temple de la musique classique mais le lieu où, où se déroulent les meilleurs concerts de jazz. Et ce monsieur qui est perdu un peu dans la ville voit comme ça, un carrefour de la grande cité, deux musiciens noirs qui sont en train de fumer et qui ont leurs instruments à côté. Enfin, ils devinent que ce sont des instruments, les valises qui ressemblent à des trompettes et à des saxophones. Et ils demandent pardon, messieurs, comment faire pour aller à Carnegie Hall? Alors un des deux noirs se retourne et dit au quidam, commence par travailler ton instrument.
Nous sommes à la fin de l'année, aux dernières palpitations de 1966, 1967 va naître. Le jazz vous souhaite une nouvelle année heureuse et des occasions multiples de vivre avec lui et sans lui, comme il sait le faire lui-même, dans l'humour, une bonne année.
Connaître le jazz, émission de Lucien Malson, était donc ce soir présentée avec le concours de tous les animateurs de jazz de l'ORTF. La 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 la.
C'était l'humour en jazz dans l'émission Connaître le jazz sur France Culture en 1966, première diffusion le 31 décembre.